Spotkania europejskie.
Rozumiem tutaj Europę.
Rozkrucia Europej.
Stavrodromit z Europis.
Treffpunkt Europa.
The Hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquel.
Guillaume Meunier.
Bonjour, bienvenue au Carrefour de l'Europe. Cette semaine, encore et toujours, le Brexit. Le Royaume-Uni a bien quitté l'Union Européenne le 31 janvier dernier, mais quelles relations Londres entend-elle construire avec les 27 pays de l'Union, étroites ou au contraire distendues? Malgré les rounds de négociations qui s'enchaînent, personne ne le sait vraiment, à commencer par les Britanniques eux-mêmes qui restent dans le flou quant à leur intention. Mais l'horloge tourne pour le moment. La Grande-Bretagne continue d'appliquer les règles européennes et a toujours accès au marché unique, mais cette situation prendra fin le 31 décembre prochain. Il reste donc très peu de temps pour trouver un accord, et faute de compromis, le no deal s'imposerait. Autrement dit, ce sont les règles de l'Organisation Mondiale du Commerce, l'OMC, qui s'appliqueraient avec leurs droits de douane élevés et leurs contrôles frontières. Le no deal est-il inévitable entre le Royaume-Uni et l'Union Européenne? Eh bien, je vous présente les invités qui nous ont rejoints. Bonjour Elvis Farbry.
Bonjour.
Vous êtes politologue et chercheuse à l'Institut Jacques Delors, un institut par définition très européen.
Absolument.
John Elley, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le correspondant à Paris du quotidien britannique The Guardian, plus spécialement en charge des questions européennes. Hein. L'Europe, ça se traite mieux sur le continent que de Londres, c'est ça un peu l'idée?
Tout à fait.
Et puis, à Londres, justement, nous rejoignons Lord Peter Ricketts. Bonjour.
Bonjour Daniel.
Vous êtes ancien ambassadeur du Royaume-Uni en France, évidemment, merci d'être en ligne de Londres. Et puis comme chaque semaine, nous serons en ligne avec Sacha Mitchell du Courrier International. Alors Elvire Fabry, sans refaire toute l'histoire du Brexit, il convient pour nos éditeurs, qui sont pour la plupart persuadés que cette histoire du Brexit s'est terminée depuis longtemps, il convient de resituer la saga du Brexit. Alors, je veux dire quelques dates, quelques faits. Les Britanniques ont voté le 23 juin 2016 pour quitter l'Union Européenne, soit il y a 4 ans, presque jour pour jour. Et depuis, telle une excellente série télévisée, on a vécu un feuilleton avec une multitude de rebondissements et de vrais personnages assez hollywoodiens. Alors, avec la démission de celui qui l'avait initié, David Cameron, les déboires de celle qui lui a succédé, Theresa May, l'arrivée triomphale de celui qui l'a mis en œuvre, Boris Johnson. Pour vous, Elvire Fabry, l'épisode ou les deux épisodes marquant ce feuilleton, quel est-il ou quels sont-ils?
Bah, écoutez, c'est vrai que on en est à 4 ans quand même. Comme vous dites, c'est une série qui avec des multiples rebondissements. Je pense que aujourd'hui on se rend compte que on est encore qu'au bout du Brexit politique. C'est-à-dire que le Brexit politique a eu lieu fin janvier. Il a mis 3 ans et demi à se concrétiser. Et ça a d'abord été un drame politique interne au sein du Royaume-Uni, au sein de la Chambre des communes. On a le sentiment qu'on s'est heurté à un risque de no deal au printemps 2019 et puis décembre 2019. Je pense que ça a été quand même les moments de tension les plus fortes. Et il a fallu que toutes les entreprises britanniques se préparent à cette échéance. Et ça a été avec la démission de Theresa May, l'arrivée d'un Boris Johnson, on perdait encore plus le fil du projet du Brexit, savoir dans quel sens ça pouvait aller.
John Elley, on peut dire aussi que il y a une réalité qui s'est imposée au cours de ces 4 ans, c'est que, à la grande surprise des Britanniques, me semble-t-il en tout cas, les Européens sont restés très unis.
Oui, tout à fait. Parce que pour une raison en fait assez simple, je pense que même si tous les pays, tous les membres de l'Union européenne ont regretté la décision, le vote pour le Brexit en Grande-Bretagne, même s'ils regrettent le départ d'une grande économie de l'Union, ce qui compte plus pour eux, ce qui est plus important à long terme, ça a toujours été le cas et ça sera toujours le cas, c'est de protéger, de préserver ce marché unique, qui est vraiment la force, qui est le plus grand accomplissement de l'Union européenne, le marché unique.
Et alors, le marché unique, on peut rappeler, donc c'est maintenant 450 millions de consommateurs, mais pas seulement. À l'intérieur de ce marché unique, il y a 4 grandes libertés: la liberté de circulation des marchandises, des individus, des personnes, des capitaux et aussi des services.
Tout à fait. Et tout le débat, en fait, et ce qui a été perçu très rapidement par les Européens. Je me souviens, le lendemain du vote, François Hollande, qui était le président français, évidemment, à l'époque, et Angela Merkel ont fait un communiqué joint, dans lequel ils ont plus ou moins inventé cette expression de cherry picking, c'est-à-dire l'idée d'avoir le beurre. En français, je pense que c'est avoir le beurre et l'argent du beurre.
Alors qu'on rajoute même quelque chose.
Voilà, exactement. voilà, cette idée, c'est que parce que ce qui avait été promis, et c'est pour ça que ces trois ans et demi ont été tellement durs au sein du Parlement britannique, c'est parce qu'en fait, en gros, les Anglais, les électeurs britanniques ont voté pour un départ, mais ils ont jamais voté pour une destination. Cette destination n'avait vraiment été définie dans le monde réel tel qu'il existe véritablement. C'est-à-dire que ce qui avait été promis par les Brexiteurs pendant toute la campagne, c'était justement qu'il serait tout à fait possible de sortir de l'Union européenne et de garder tous les avantages d'être membre, ce qui est évidemment pas possible. C'est ça que les Européens voulaient éviter. C'est pour ça que ces négociations ont été tellement aussi pires. Et c'est pour ça que maintenant, c'est ça qui bloque maintenant. Il y a maintenant, et même cette semaine, Michel Barnier, dans un discours évidemment virtuel, a de nouveau, poliment, mais quand même, plus ou moins accusé les Britanniques de vouloir le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire de garder quelques avantages d'être membre de l'Union européenne et de ce marché unique, tout en sortant.
Peter Ricketts, ce que vient de dire John Henley, c'est quand même assez grave pour un diplomate comme vous, un ancien diplomate. Est-ce que ça veut dire que les Britanniques n'ont jamais compris comment fonctionnait l'Union européenne ?
Oui, ça c'est en partie vrai. Nos hommes politiques n'ont jamais vraiment expliqué le projet européen aux Britanniques. Pour nous, ça a toujours été un marché commun et on n'a jamais vraiment compris l'aspect politique derrière l'Union européenne qui est tellement important pour les Français, les Allemands et les autres membres. Mais juste pour commenter la discussion jusqu'à ce point, le vote non au Royaume-Uni contre l'Union européenne, c'était plusieurs non. Il y avait un nom qui était anti-immigration, un nom qui était anti-élite, un nom qui était souverainiste contre le contrôle de Bruxelles, etc. Alors, les gens se sont mis d'accord sur ce qu'ils ne voulaient pas, mais comme disait John, ils ne sont pas mis d'accord sur ce qu'ils voulaient. C'est pour ça qu'il n'y avait pas un projet de l'après-Brexit. Et pour tout ça, les trois années précédentes ont été très, très tumultueuses ici. Et maintenant, nous avons en Boris Johnson quelqu'un qui veut clairement un départ politique, pas nécessairement économique. Il n'a pas nécessairement le projet de diverger des normes européennes, mais il ne veut absolument pas s'engager vis-à-vis de l'Union européenne, de les respecter. Le débat va tourner sur tout ça.
Et il reste très peu de temps pour ce débat. Et Fabry, pour l'instant, ce qui a été négocié, ce n'est pas la relation future entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, ce sont les modalités du divorce, hein, la situation et les droits des Britanniques dans les pays de l'Union européenne et des Européens en Grande-Bretagne, le coût du retrait, environ 50 milliards hein, d'euros, et puis le problème de la frontière entre la République d'Irlande, c'est-à-dire Dublin, et l'Irlande du Nord, c'est-à-dire Belfast. Pour l'instant, il y a uniquement ça qui a été discuté et qui a été négocié avec une signature en bas du document.
Absolument, c'était les garanties minimales sur lesquelles les Européens voulaient se concentrer, c'était des priorités, et c'était juste en effet les conditions de sortie du Royaume-Uni qui a eu lieu fin janvier. Maintenant, il y avait une déclaration politique qui n'était pas contraignante, qui accompagnait cet accord de sortie et qui donnait un petit peu les grandes lignes des termes de la négociation et de l'esprit surtout dans lequel on allait engager les discussions à partir du mois de janvier. Et tout le problème, c'est qu'on a déjà vu que sur la base des deux mandats côté européen et côté britannique qui ont été présentés en début d'année, Boris Johnson est déjà en train de revenir sur les termes de cette déclaration politique et que ça n'a pas aidé, si je puis dire, un peu à engager ces discussions, cette négociation ces derniers mois. Outre le fait que le Covid a évidemment imposé une sorte de parenthèse, les négociateurs eux-mêmes sont tombés malades, mais en revenant ne serait-ce que sur la gestion de la frontière irlandaise, en annonçant qu'il n'y aurait pas nécessairement de contrôle qui serait assuré pour les biens qui traversent la frontière, ce qui est une des conditions fondamentales de l'accord. La confiance est érodée sur une question essentielle et sur les termes de la déclaration politique et sur un enjeu très spécifique de la préservation de conditions de concurrence équitable, ce qu'on appelle le fameux level playing field. Et qui est vraiment l'épicentre
au cœur,
de cette négociation.
Absolument.
Boris Johnson est déjà dans un état d'esprit assez différent, et c'est là aujourd'hui où on est en train de la discussion bloque, et c'est ce qui va se jouer dans les semaines qui viennent.
John Henley, ce qui reste à négocier en théorie d'ici le mois d'octobre, c'est tout le reste, c'est-à-dire l'accord commercial, comment les marchandises vont circuler, droits de douane ou pas, quotas ou pas, l'accord sur la finance, la City aura-t-elle encore accès au marché continental, mais aussi par exemple les échanges d'informations sur les personnes recherchées, et bien sûr évidemment la pêche, on va en dire un petit mot jusqu'alors, ce qui est évidemment important. Ça fait beaucoup, beaucoup de sujets à négocier, un accord à trouver en très peu de temps.
Oui, et je pense que tout le monde quasiment est d'accord pour dire que ce n'est pas possible. Parce qu'en fait, il faut aussi se rappeler que en fait la date limite ce n'est pas le 31 décembre, c'est on va dire plus ou moins le fin octobre, parce qu'il faut laisser du temps pour ratifier cet accord pas dans le Parlement européen, dans les différents parlements autour d'Europe, etc. Donc il faut au moins 3 mois pour que ça soit bien entériné, ratifié. Donc il reste 4 mois. Oui, et donc il est bien évident qu'un accord global sur tous ces éléments ne sera pas possible. Je pense donc qu'on s'achemine, si on s'achemine vers un accord, on s'achemine vers un accord vraiment à minima, mais avec la possibilité, et c'est ça que veut surtout l'Union européenne, un accord avec, si je peux dire, avec une architecture qui permettra de négocier et d'ajouter d'autres éléments leur venue. Mais il y a, avant d'arriver à ce point-là, je pense qu'il faut bien le souligner, il y a 3 grands point de désaccord, de blocage, c'est le fameux level playing field qu'a mentionné Elvire. Alors, je pense qu'il faut le définir un peu. C'est l'idée que ce que l'Union européenne ne veut pas, c'est une grande économie sur ses côtes, si je peux dire, qui s'engage dans la concurrence défavorable, ou la fausse concurrence, déloyale.
L'Union européenne, le marché unique, c'est à la fois un marché et des règles et des normes.
Absolument.
Et la crainte des Européens, en tout cas, là-dessus, ils sont vraiment très fermes, c'est qu'ils ne veulent pas qu'il y ait un dumping fiscal, dumping environnemental,
exactement,
un dumping social.
Il y a des règles très strictes européennes sur la protection de l'environnement, la protection des droits des travailleurs, sur les aides d'État qui sont permissibles à l'industrie, etc. Et ce que veut l'Union européenne, c'est que la Grande-Bretagne s'engage à adapter ses propres règles pour toujours être en accord, pour suivre les normes et les standards européens. Le problème, c'est que pour les Brexiteurs, toute l'idée du Brexit, c'était de se séparer de ces règles et de ces règles européennes. Donc ça, c'est une chose, c'est ce level playing field. Deuxième chose, c'est la pêche. On va parler un petit peu plus tard. Troisième chose, c'est une question qui pour moi est peut-être la plus épineuse. C'est la question de qu'est-ce qui arrive dans l'avenir s'il y a dispute, s'il y a désaccord. Qui va arbitrer?
Et par définition, il y aura forcément un désaccord à un moment ou à un autre.
Voilà, exactement. Donc, qui va trancher? Qui va décider? Pour les Européens, ils préféreraient évidemment qu'il y ait un rôle pour la Cour européenne de justice. Pour les Anglais, pour les Britanniques, ça c'est vraiment une ligne rouge. Hein. Ils veulent pas entendre parler du tout. Donc il va falloir trouver un mécanisme d'arbitrage, comme il y a évidemment pour tout qui règle tout, tout accord de commerce, de libre-échange. Il y a toujours un mécanisme d'arbitrage, mais il va falloir en trouver un nouveau pour régler ce futur accord.
Peter Ricketts, est-ce que vous savez, vous qui êtes à Londres, ce que veulent vos concitoyens et votre gouvernement? Est-ce que vous savez clairement ce qu'il veut ou pas? Ou est-ce que même pour vous, c'est un peu flou?
Je pense que c'est toujours un peu flou, même pour Boris Johnson lui-même. il n'a pas fait ses derniers calculs là-dessus. Tout le monde veut que ça soit fini, qu'on ne parle plus de Brexit, on a d'autres choses à faire. Mais je suis moins sûr que John qu'un deal est impossible pour la fin de l'année. Pourquoi je dis ça? D'abord parce qu'en arrivant en fin de l'année dernière, Boris Johnson a fait un virage spectaculaire sur l'accord de départ pour conclure au dernier moment cet accord de départ avec des concessions majeures sur l'Irlande du Nord surtout. Et je pense maintenant le calcul a changé un petit peu ici, le Covid, et avec la pression sur Boris Johnson sur sa mauvaise gestion de la crise Covid. Et maintenant, je pense que pour les conservateurs, le risque de partir sans deal est encore plus important. On a maintenant un chef de l'opposition en M. Keir Starmer qui est très efficace. Et partir sans deal serait quand même un échec majeur pour le gouvernement, avec beaucoup d'incertitudes sur le niveau de turbulence, difficultés, des dislocations qui suivra. Alors, à mon avis, c'est toujours très possible qu'on fera un petit deal. Mmh. Ce ne sera pas un deal sur toutes les questions, mais un deal de principe, surtout sur la question libre-échange et commerce, avec des détails délégués aux commissions et autres comités suivre dans les mois qui suivent dans l'année 2021, par exemple. Deux autres aspects qui sont très importants à mettre sur la table, c'est la question des données. Un accord sur l'échange des données qui est fondamental dans toutes ces zones de commerce et aussi dans la zone de sécurité. Et là aussi, j'ai beaucoup de doutes sur la possibilité de conclure un accord qui gardera l'accès pour les Britanniques au réseau, au système d'alerte sécuritaire, police judiciaire, entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Et là, c'est un secteur très important, étant donné le nombre de criminels qui passent entre les frontières, la lutte contre le terrorisme, etc. Là aussi, il va être difficile d'arracher un accord dans les mois qui viennent.
John Henley, vous voulez juste rajouter un...
Oui, je voulais juste... Non, mais je suis complètement d'accord avec Peter que oui, un deal est possible mais ce sera vraiment un deal de base, quoi, vraiment à minima. Mais essentiellement parce que effectivement l'équilibre politique en Grande-Bretagne a vraiment changé. Comme a dit Peter, on voit tous les mercredis. C'est les mercredis matin à Londres, c'est les questions au gouvernement. On voit un Boris Johnson vraiment mis en difficulté par le nouveau. On a vraiment pour la première fois depuis 4 ans une opposition digne de ce nom en Grande-Bretagne. Il est mis en difficulté par Keir Starmer et je pense que avec sa crédibilité sérieusement affaiblie par la gestion terrible de la crise du Covid en Grande-Bretagne, la dernière chose qu'il veut, Boris Johnson, c'est de laisser une porte ouverte pour les 4 prochaines années à une opposition forte qui va s'attaquer sur ce no deal, sur la catastrophe d'un no deal. Donc je pense que voilà, il y a une volonté politique à arriver à un accord en Grande-Bretagne qu'il n'y avait peut-être pas, même il y a 3 mois.
À propos des difficultés que connaît Boris Johnson en ce moment, nous allons faire un petit détour par la rédaction de Courrier International. Bonjour Sacha Mitchell.
Bonjour Daniel.
Il y a 6 mois, l'homme du Brexit, le Premier ministre Boris Johnson, était au fait de sa popularité, mais c'était il y a 6 mois. Entre-temps, le Covid est passé par là, avec une gestion pour le moins calamiteuse au Royaume-Uni. C'est un article de The Economist, Sacha Mitchell.
Voilà tout juste 6 mois, Boris Johnson était aux anges. Après une fin d'année 2019 compliquée, le conservateur obtenait début décembre une victoire écrasante aux élections législatives. Un triomphe obtenu grâce à son mantra « mettre en œuvre le Brexit ». Et c'est d'ailleurs ce qu'il a fait depuis le 1er février. Le Royaume-Uni est un pays tiers. Seulement, aujourd'hui, l'état de grâce est terminé, selon le magazine The Economist. La faute à une bien piètre gestion de la pandémie de Covid-19. Un chiffre l'illustre, hein, bien sûr. C'est le bilan des décès, près de 44 000, soit le pire total en Europe. Alors Boris Johnson a déjà perdu le soutien de l'opinion sur la question, selon les sondages, et il serait même en passe de perdre celui de ses députés. Son camp lui reproche ses volte-face, notamment sur la rouverture des écoles, et ses tergiversations sur la fourniture de repas gratuits aux élèves défavorisés pendant l'été. Pour résumer, en fait, un nombre croissant de personnes craint que Boris Johnson ait été élu pour résoudre une question, le Brexit, mais qu'il se retrouve désormais démuni face à un problème complètement différent. Résultat, cette gestion calamiteuse de la pandémie, elle est en train de détruire l'atout le plus important du gouvernement, son autorité, analyse The Economist. Pour tout vous dire, Daniel, même les députés novices, élus pour la première fois en décembre dernier, font entendre leur mécontentement. Et comble de l'ironie, en interne, il est de plus en plus comparé à... Et oui, à Theresa May, sa prédécesseur, tant moquée pour son indécision. Alors la situation, elle n'est pas désespérée pour le Premier ministre britannique. Loin de là, les prochaines élections n'auront pas lieu avant 4 ans et dans les sondages, les conservateurs gardent une avance confortable sur les travaillistes. Reste qu'il sera difficile de redresser la barre, prédit The Economist. Le nombre de chômeurs liés à la crise du Covid pourrait dépasser rapidement les 3 millions de personnes et dans le même temps, la frustration grandit dans une population toujours partiellement confinée et qui regarde de l'autre côté de la Manche les voisins européens se détendre aux terrasses des cafés.
Sacha Michel, merci. Courrier international, l'hebdo et courrierinternational.com, le site Janelle. Que révèle d'un point de vue britannique cette crise du Covid qui a été... On est bien obligé de le dire, très mal géré.
Moi, je trouve des parallèles assez instructifs entre la gestion par ce gouvernement de la crise du Covid et sa gestion du Brexit. Peut-être pas la gestion, mais l'approche. Et pour moi, c'est ce qu'on observe dans les deux cas. C'est ce qui arrive quand un gouvernement essentiellement idéologique est confronté, ou une façon de gouverner essentiellement idéologique, est confronté avec une réalité inévitable, soit politico-économique comme le Brexit, soit sanitaire comme le Covid. Pour tous les deux, il y a eu des appels constants à la fierté du peuple britannique, à l'exceptionnalisme britannique, au rôle de ce pays pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'était vraiment, écoutez, on va pas s'agenouiller devant les 27. On a quand même gagné la guerre. On va pas s'agenouiller devant ce virus. On a quand même le meilleur système de santé au monde. Les autres pays ont fait des erreurs. Nous, on est exceptionnel. Et c'est vraiment c'est le gouvernement par slogan. Et quand on est confronté par ce genre de crise réelle, les slogans ne suffisent pas et on est en train de s'en rendre compte.
Carrefour de l'Europe, Daniel Desesquel.
Carrefour de l'Europe, y aura-t-il un deal ou pas entre le Royaume-Uni et l'Union européenne? Nous sommes avec Lord Peter Ricketts, ancien ambassadeur du Royaume-Uni en France, avec Elvire Fabry, politologue et chercheuse à l'Institut Jacques Delors, et avec John Henley, correspondant à Paris du quotidien britannique The Guardian. Elvire Fabry, vous vouliez réagir à ce que vient de dire John Henley, puis on va évidemment entendre Peter Ricketts.
Oui, parce qu'une illustration de ce que vient de dire John, c'est le slogan, par exemple, de Global Britain, qui est l'illustration de la stratégie défendue par Johnson pour le post-Brexit. Global Britain, ça veut dire quoi? Ça veut dire renouer avec la nostalgie d'un empire britannique qui va créer des liens plus étroits avec ses partenaires éloignés, on le sait, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada, pour compenser ce qu'il perd d'un côté comme accès au marché unique européen. Cette stratégie, elle vise évidemment d'abord à renégocier tous les accords que l'Union européenne a passés avec des pays tiers dans le monde. Et là, le gouvernement britannique s'est donné du mal ces derniers mois pour essayer d'accélérer. Pour le moment, il n'en a signé qu'une vingtaine, avec dont les plus significatifs sont ceux qui sont les plus intégrés dans l'économie européenne. On pense à la Norvège, on pense à la Suisse. Mais pensons à l'ambition de Johnson de négocier un accord avec les États-Unis, un marché attractif, un marché qui pourrait compenser justement la perte d'accès au marché européen. C'est intéressant d'avoir un chiffre en tête, qui est l'estimation faite même par le gouvernement britannique. Un accord signé avec les États-Unis n'apporterait un gain de croissance que de 1,1% à long terme. Et ça ne représenterait que 0,1% de ce que les Britanniques perdent côté européen. Donc on voit très bien qu'aujourd'hui, cette stratégie de Global Britain, c'est en effet un slogan, c'est en effet une sorte de projection, mais qu'elle n'a pas de réalité économique tangible et qu'il est facilement contesté aujourd'hui sur un enjeu comme celui-là.
Peter Ricketts, vous avez été ambassadeur du Royaume-Uni en France, donc vous avez encore les chiffres tout à fait en tête. Les échanges du Royaume-Uni vers l'Union européenne, c'est environ 50%, donc c'est vraiment important, les exportations du Royaume-Uni vers l'Union européenne. Et dans l'autre sens, les échanges de l'Union européenne vers le Royaume-Uni, c'est 8%. Il y a quand même la géographie qui s'impose. Le Royaume-Uni peut quitter l'Union européenne, mais reste membre de l'Europe. Et l'Europe, on commerce évidemment un peu plus avec ses voisins qu'avec ses voisins proches qu'avec les voisins très 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 éloignés, fussent-ils membres du Commonwealth.
Non, effectivement, la géographie compte pour beaucoup dans la commerce, surtout physique, l'échange de biens entre les pays. Comme vous dites, 50% de nos exportations vont vers l'Union européenne, seulement 15% vers les États-Unis. C'est surtout vrai dans les biens, dans les services. On a vraiment une économie mondiale, c'est moins lié à la géographie, mais rien ne peut compenser dans le court ou moyen terme l'accès fluide et sans difficulté au marché unique. Ça, c'est certainement vrai. Et ce que John Hanley a dit, c'est aussi vrai que Boris Johnson, c'est une bête politique. Il était brillant en campagne, mais ses ministres ont été choisis plutôt pour leur loyauté politique que leurs compétences. Et la gestion de Covid, c'est une question de compétence gouvernementale surtout. Et là, le gouvernement britannique a vraiment échoué pour ma raison. Et nous sommes face maintenant à une crise économique qui peut durer longtemps. Et ce que Boris Johnson veut absolument éviter, c'est un retour à l'austérité qui était l'emblème de la période David Cameron, Theresa May. Alors, il va être dépensier pour essayer d'échapper de cette austérité. Et le modèle qu'on utilise actuellement chez nous, c'est Roosevelt. C'est le grand programme d'investissement New Deal dans les années 30 aux États-Unis. Sauf qu'on n'a pas le budget nécessaire pour vraiment une relance par l'investissement à l'économie comme ça. Alors tout reste très flou sur l'avenir au Royaume-Uni. L'impact du Brexit, l'impact du Covid, et l'impact de tout ça sur la popularité de Boris Johnson. Son gouvernement est certainement à risque à moyen terme, à mon avis.
Alors c'est vrai que, je pense en dire un mot un peu plus tard, mais Boris Johnson a lancé un programme ambitieux de New Deal, hein, en faisant référence évidemment à Roosevelt, d'environ 5 milliards d'euros. Alors c'est vrai qu'en ce moment, en Europe et dans le monde, on fait pas grand-chose avec un milliard. Hein, donc voilà, 750 milliards du côté des Européens, 5 milliards du côté des Britanniques. On est effectivement... L'argent coule à flot, on ne sait pas d'où il vient, probablement qu'il faudra le rembourser à un moment ou à un autre. Mais enfin, ce sera le sujet d'une autre émission. John Hanley, il y a quand même ces négociations qu'il faut mener dans les 4 mois qui viennent, ou en tout cas, il faut essayer de les mener, et chaque partie, l'Union européenne et le Royaume-Uni, a un point fort. Et le point fort des Britanniques, c'est la pêche.
Écoutez, c'est la pêche, c'est vraiment, c'est très compliqué, mais c'est un sujet vraiment fascinant. Pourquoi? Parce que économiquement, surtout pour les Anglais, c'est une question qui a vraiment très très peu d'importance. Ça représente vraiment très peu dans l'économie britannique.
Il y a très peu de pêcheurs britanniques.
Voilà. Symboliquement, c'est énorme. Pourquoi ? Parce que, comme les Brexiteurs, c'est pour ça que les Brexiteurs ont choisi la pêche comme emblème de leur campagne, ça représente physiquement leur slogan de reprendre le contrôle. Voilà, on va reprendre le contrôle sur nos eaux territoriales. On veut plus que les pêcheurs français, belges, néerlandais, etc.
Voilà,
viennent pêcher dans nos eaux.
Le problème, c'est qu'il faut dire, c'est que les eaux britanniques sont très très poissonneuses.
Ils sont très poissonneuses, mais aussi ce qu'il faut aussi comprendre, que c'est le droit de ces pêcheurs continentaux, on va dire, de venir pêcher dans les eaux britanniques, existe depuis bien avant l'existence ou la naissance de l'Union européenne. Ils existent depuis des siècles, sont basés sur des traités qui existent et des coutumes qui existent depuis des siècles. C'est aussi compliqué pour une raison très simple, c'est-à-dire que la particularité de l'industrie de la pêche en Grande-Bretagne, c'est que les pêcheurs britanniques ne pêchent pas ce que les Anglais mangent en termes que pêche, ce qu'ils pêchent bien, les poissons, les espèces de poissons que les pêcheurs anglais attrapent bien, sont exportés essentiellement vers l'Union européenne. Donc la Grande-Bretagne a également besoin du marché européen pour écouler ce qu'il attrape. Donc il va faire un moment ou un autre négocier. Le problème, c'est que les Européens veulent essentiellement le statu quo. Ils veulent que les pêcheurs français, hollandais, belges continuent d'avoir le droit d'aller pêcher dans les... Les Anglais veulent que ça soit négocié chaque année. Ce que les Européens veulent éviter à tout prix. Donc voilà, c'est bien parti pour être vraiment une négociation très dure, même si sur le plan économique, c'est très loin d'être l'élément le plus important.
Oui, c'est vraiment un aspect du Brexit, au sein du Brexit, c'est toutes les contradictions et les paradoxes du Brexit, on les retrouve dans le dossier de la pêche. Elie Fabry, alors ça c'est le point fort des Britanniques, la pêche, les autres points forts c'est plutôt les Européens qui l'ont. Évidemment, c'est l'accès au marché intérieur le marché unique qu'on a évoqué déjà au cours de cette émission.
Tout le dossier du Brexit a été finalement une sorte de pédagogie renversée de ce qu'est la réalité du marché unique. Et en effet, depuis le début, c'est pas simplement les questions commerciales, c'est 750 accords qui constituent une sorte de muscle, en fait, qui a créé ce lien très fort entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, comme entre tous ses États membres. Et c'est vrai que c'était évoqué tout à l'heure à propos des règles environnementales, sociales, de la concurrence. Sont des règles, c'est un écosystème. C'est-à-dire qu'il peut pas y avoir une approche optionnelle de tel ou tel secteur. C'est un ensemble de règles auxquelles tiennent les Européens. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, sur cette question de l'alignement dynamique du Royaume-Uni sur les règles européennes, c'est ce qui va être le plus difficile à négocier, parce que sur une question comme celle de la pêche, on voit bien que c'est un enjeu de transaction, de levier, et que c'est une carotte que gardent les Britanniques et qui peut à un moment donné faire pencher le compromis. En revanche, sur les questions réglementaires, là, c'est beaucoup plus profond. Et il faut remettre cet enjeu des règles d'État dans le contexte actuel de crise, vous l'évoquiez, de tous les montants du flot de subventions que l'on voit se déverser partout, et dans un contexte où ces subventions vont aussi créer des distorsions beaucoup plus importantes entre les pays. Donc les Européens sont particulièrement vigilants sur cette question.
C'est le fameux plan de relance de 750 milliards qui va aider les pays les plus touchés, soit par la pandémie, soit par économiquement, pour les remettre un peu à niveau face aux concurrents européens qui s'en sortent mieux économiquement ou au niveau de la pandémie.
Absolument. D'un côté, vous avez les Européens qui veillent à ne pas laisser s'installer des déséquilibres entre les États membres, et que ce soit par ce fonds de relance, que ce soit par de nouvelles règles en termes d'aide d'État, pour autoriser les États membres eux-mêmes à pouvoir utiliser plus de subventions. Et à partir du moment où ils essayent de maintenir cette concurrence équitable au sein de l'Union européenne. Ils sont encore plus vigilants sur cette question à leurs frontières avec les Britanniques. Et au même moment, alors qu'au même moment, ils essayent précisément d'établir des relations de concurrence plus équitables également avec un pays comme la Chine. C'est l'enjeu aujourd'hui central du marché unique. C'est de d'abord préserver les règles européennes et de promouvoir au niveau multilatéral des règles qui sont elles-mêmes équitables et qui permettent de garder un commerce ouvert.
Pour les Européens, le Brexit a eu une conséquence, il a renforcé le sentiment européen et l'esprit européen comme une prise de conscience qu'il vaut mieux être unis face aux blocs qui se mettent en place, les États-Unis qui s'éloignent de l'Europe, la Chine de plus en plus menaçante et la Russie qui garde un pouvoir de nuisance. Les Européens ont des valeurs, un mode de vie en partage. Ils ont créé un fragile édifice, mais qui tient et auquel les Britanniques n'ont jamais vraiment adhéré. Thierry Breton, le commissaire européen au marché intérieur, était l'invité de Carrefour de l'Europe il y a tout juste 15 jours. Et son analyse de la situation au Royaume-Uni est sans appel.
Ça m'attriste et ça m'effraie pour la Grande-Bretagne. Parce que s'il y a une chose que je pense nos concitoyens européens ont compris au fond de cette crise, c'est que désormais, la vraie échelle pour le monde qui vient, c'est un continent. Plus rien ne pourra se traiter si on n'est pas un continent. La science, la médecine, la santé, l'économie, l'endettement. Et ça me fend le cœur, moi qui ai tellement d'attaches avec ce pays, de voir qu'il est, oui, je pense, qu'il est perdu.
Peter Ricketts, quand vous entendez Thierry Breton, qui est quand même le commissaire européen au marché intérieur, à l'industrie, à la défense, au spatial, à l'audiovisuel, et j'en oublie sûrement, qu'est-ce que vous avez envie de, comment vous avez envie de réagir? Il est quand même sans appel sur la situation et l'avenir du Royaume-Uni.
Ah bon, non, c'est pas sans appel. Il y a un certain angélisme aussi dans cette discussion autour de l'Union européenne, qui a aussi eu des difficultés pendant la crise Covid. Sa gestion de la crise n'a pas été totalement parfaite non plus. Je vois par exemple les aides d'État en Allemagne qui augmentent énormément et qui va changer un peu la donne sur la compétitivité au sein de l'Union européenne.
Je comprends bien Peter Ricketts, mais ce que veut dire Thierry Breton, c'est que le Royaume-Uni est en train de faire fausse route.
Fausse route, on verra. Moi, je suis plutôt d'accord qu'il aurait fallu rester dans l'Union européenne. Dans ce monde compétitif qui se profile, l'idée de l'exceptionnalisme britannique n'est pas très bienvenue. Je pense que c'est pas une bonne ambition pour le pays, mais nous sommes là. Et en fait, nous ne partirons pas de l'Europe et nous partagerons toujours les valeurs de l'Europe. Si on voit la politique étrangère du Royaume-Uni, c'est plutôt aligné avec l'Europe sur la question de l'Iran, sur la question du climat, sur la question de la gestion de la Russie, sur la question de la commerce libre, un commerce international. Alors, je ne vois pas le Royaume-Uni partir des valeurs européennes ou une solidarité avec les Européens sur les questions de politique étrangère. Là, je pense que c'est un peu exagéré de la part de Thierry Breton d'imaginer que nous allons partir totalement de tous ces fondamentaux. C'est sur les questions commerciales surtout que le vote non va sans doute traduire dans une distance que je regrette, mais qu'il faut assumer. Mais pour le reste, j'espère qu'on peut continuer à bâtir les coordinations, les coopérations.
Deux réactions à ce que vous venez de dire, Peter Regan, John Hennett et Elvire Fabry.
Encore une fois, je suis complètement d'accord avec Peter que la Grande-Bretagne continuera évidemment de partager essentiellement les valeurs européennes. Le problème, c'est qu'en termes, pour moi, en termes de politique étrangère, ce n'est pas qu'une question de valeurs et de volonté. C'est aussi une question d'influence. Et je pense que le vrai problème, le véritable problème pour la Grande-Bretagne dans l'avenir, c'est que au sein de l'Union européenne, la Grande-Bretagne exerçait une influence considérable. Et en dehors, cette influence sera considérablement amoindrie et donc la possibilité, la capacité de la Grande-Bretagne d'avoir ce qu'elle veut sera beaucoup moins que ça n'aurait été si elle avait resté dans l'Union européenne.
Elvire Barry, votre réaction d'un mot sur le sujet?
Je pense que l'avis enfin le oui, l'avis de Thierry Breton est un peu définitif en tant que tel, mais il y a un élément qui est clair, c'est que à partir du moment où le Royaume-Uni s'éloigne de l'Union européenne dans sa réalité économique et politique, plus il va être aussi soumis à la force d'attraction de pression de Washington, c'est-à-dire que le rapprochement économique avec les États-Unis a aussi des implications géopolitiques. On le voit actuellement avec, sous la présidence de Trump, il y a une pression de plus en plus forte qui s'exerce sur les partenaires pour qu'ils s'alignent sur les intérêts américains. Et concrètement aujourd'hui, ce que ça veut dire, c'est se désengager du marché chinois, des chaînes de production chinoises. Et ça, déjà aujourd'hui, on voit que c'est difficile à gérer pour le gouvernement britannique. Et que la décision d'autoriser des investissements de Huawei au Royaume-Uni, la décision d'adopter une taxe sur le digital, ça crée des frictions avec Washington, c'est un problème. Et que ça peut être plus difficile pour le Royaume-Uni, dans son statut d'autonome, de peser à l'échelle internationale, à la fois d'un point de vue géopolitique et économiquement entre les
grandes puissances. Ce que vous êtes en train de dire, Elvire Fabry, si je vous ai bien compris, c'est que le Brexit, c'est refuser un peu de dépendre de Bruxelles, je le fais à grande ligne, mais le Brexit, c'est aussi prendre le risque de dépendre beaucoup plus de Washington.
Oui, c'est un alignement à ce moment-là qui va se faire sur les intérêts américains.
À propos de la Chine, juste un mot de John Hanley, le gouvernement britannique, dans l'affaire hongkongaise, et on est en plein dans l'actualité, a dit à tous les Hongkongais, si vous voulez continuer à vivre avec un minimum de liberté, venez chez vous, on vous accueille. Ça risque d'être extrêmement important dans l'avenir du Royaume-Uni et en termes d'immigration, en termes de peut-être les Hongkongais.
Il y a un grand élément historique évidemment dans tout cela. Je pense que en fait c'était une proposition très très honorable de la part du gouvernement britannique. En réalité, je pense qu'il faut attendre un petit peu, voir combien de Hongkongais viennent ou ont envie ou peuvent, parce que le gouvernement de Chine, Pékin a annoncé cette semaine, quasiment le lendemain de la formalisation de cette offre par le gouvernement britannique, Pékin a annoncé que les habitants d'Hong Kong n'auront pas le droit de partir vers la Grande-Bretagne. Donc on verra à quelle mesure. Mais effectivement, ça peut paraître un peu bizarre d'exclure ou de finir avec la libre circulation des personnes dans l'Union européenne, entre la Grande-Bretagne et le reste de l'Union européenne, et puis d'ouvrir les portes potentiellement à 3 millions d'habitants hongkongais.
Oui, on est encore là, encore dans un paradoxe. Vous voulez dire juste un petit mot, Elvire Fabry, sur le sujet avant de donner la parole à Peter Ricketts.
La nouvelle politique migratoire qui est mise en place par le Royaume-Uni, elle cherche à attirer une main-d'œuvre hautement qualifiée. Et au contraire, à garder tous les emplois de faible qualification au Royaume-Uni.
Et les Hongkongais sont par définition éduqués, des grands spécialistes dans leur domaine, chacun dans leur domaine.
Et puis surtout les services financiers. S'ils peuvent récupérer une partie de toute la capacité, tout le secteur des services financiers de Hong Kong, ça renforcerait la City.
Peter Ricketts, on arrive un peu au terme de cette émission, on a encore quelques minutes, mais si je vous pose la question comme ça, à quoi va ressembler votre pays dans 10 ans?
Alors, je vais vous surprendre peut-être en disant que nous aurons reconstruit une relation beaucoup plus proche avec l'Europe qu'on a maintenant. Je dis ça parce que en 10 ans, il y aura une nouvelle génération aux manettes du pouvoir ici et en Europe, et je vois la jeune génération politique et économique beaucoup plus décontractés sur la question européenne. C'est la génération qui ont grandi avec EasyJet, avec Erasmus, qui sont tout à fait à leur aise en Europe. Et je pense que avec une nouvelle génération politique arrivée, on va retrouver une coopération très forte avec une Europe qui aura changé aussi. L'Union européenne va changer dans les 10 ans à venir. Alors je suis plutôt
optimiste. Elle risque d'être plus intégrée.
C'est les 2 ou 3 ans qui me concernent.
Donc, ce que vous êtes en train de dire, c'est que la jeune génération sera plus européenne que la précédente. Peut-être qu'elle ira voter un peu plus le jour où il y a un référendum sur le Brexit. C'est aussi une possibilité. Mais que l'Union européenne va changer, elle prend le risque d'être un peu plus intégrée, ce qui peut aussi effrayer les Britanniques. Alors, du coup, j'ai envie de vous poser la question. C'est la suite logique. Dans combien de temps, dans combien d'années, le Royaume-Uni va rejoindre de nouveau l'Union européenne et demandera à adhérer de nouveau à l'Union européenne? C'est un peu le prolongement de ce que vous venez de nous dire, Peter Ricketts.
Non, ben, ce sera sans doute au contraire. Ce ne sera pas rejoindre l'Union européenne. Et moi, je doute que l'Union européenne va s'intégrer davantage. Quand je vois toutes les pressions, toutes les divergences, la diversité d'approches économiques, politiques, sociales au sein de l'Union européenne, je vois en fait que l'Union européenne doit trouver des moyens d'être plus flexible à l'avenir. Et dans une européenne comme ça, le Royaume-Uni va retrouver sa place. Je suis assez confiant.
John Henley, vous êtes assez confiant, vous aussi, sur l'avenir du Royaume-Uni, avec ou en dehors de l'Union européenne?
Écoutez, bah, j'ai beau être britannique, mais non, écoutez, la Grande-Bretagne a toujours fait preuve de beaucoup d'inventivité, de flexibilité. Je vois pas trop... moi, mon grand souci, c'est que je ne vois pas trop le modèle économique qui va arriver. Je me fais de grands soucis sur le manque de définition d'un projet, d'une stratégie, d'une véritable idée qui pourrait exister dans le monde réel. Je pense que la Grande-Bretagne pourrait très bien vivre pour venir à regretter sa décision, cherchera sans doute à renouer des liens plus proches, comme dit Peter Ricketts, avec l'Union européenne, sans pour autant, dans l'immédiat, rechercher de redevenir membre. Et par rapport à l'Union européenne, je suis aussi d'accord avec Peter là-dessus. Je pense qu'il y avait un sondage très très intéressant cette semaine qui montrait en fait que ce que cherchaient les citoyens européens dans tous les pays membres, c'était surtout plus de coopération au sein de l'Union européenne, pas forcément de l'intégration. Donc je pense que c'est là-dessus que ça va se jouer, l'avenir.
C'est de la coopération
plus efficace, sans pour autant une intégration politique.
Elvire Fabry, vous aussi, hein, le Royaume-Uni et l'Union européenne dans les 10 ans à venir. Bon, alors je regarde, vous n'avez pas forcément une boule de cristal, mais enfin voilà, votre point de vue. Et ce sera le mot de la fin.
J'aimerais être aussi optimiste que Peter, mais je suis un peu plus inquiète à court terme et moyen terme surtout sur ce qui peut être un peu une dégradation des relations bilatérales entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Parce qu'on voit que la stratégie post-Brexit se fait, une fois la sortie consommée, mais continue à se faire en contre de l'Union européenne. Et la façon dont il s'agit de se retirer systématiquement de toutes les politiques européennes, même sur des enjeux qu'on pensait sanctuariser, Erasmus, le programme des jeunes, la coopération en matière de recherche, les universités qui ont toute cette coopération très 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 étroite et qui ont développé des programmes d'innovation formidables. On se dit que ça peut donner lieu à moyen terme à quelque chose qui est un peu plus acrimonieux et qui va avoir des retombées qu'on n'a pas encore forcément anticipées, même d'un point de vue géopolitique.
Oui, les effets du Brexit, on ne les connaît pas encore. Il faudra 10 ans, peut-être 20 ans pour qu'on les perçoive tous les uns après les autres. Et c'est évidemment une décision comme ça sur 51% à peu près, hein, le 23 juillet 2016, et des conséquences pour les 10 et 20 ans à venir, pour les Britanniques et bien évidemment aussi pour les Européens. Lord Peter Ricketts, Elvire Fabry et John Henley, merci à tous les trois d'avoir été au Carrefour de l'Europe. Réalisation Guillaume Munier avec Sacha Mitchell de Courrier International. Sur la page de l'émission, des infos sur nos invités. Pour écouter ce Carrefour de l'Europe, RFI.fr rubrique podcast, vous pouvez bien sûr vous abonner au podcast de Carrefour de l'Europe via votre plateforme préférée. On reste en contact via Twitter et Facebook. Daniel Ezesquel, où que vous soyez à Londres, Paris, ailleurs en Europe ou dans le reste du monde, je ne vous donne pas rendez-vous la semaine prochaine, car Carrefour de l'Europe part en vacances et dès dimanche prochain, vous aurez rendez-vous avec la librairie francophone. Et tout de suite, un nouveau journal sur RFI, la radio de l'Europe et du monde. Au revoir.